Chapitre 37. Le corps de Cyriane ne donnait pas signe de vie. Léonie ne tiendrait plus très longtemps face au rhinocéros et au merle. Une souffrance atroce l'avait envahie lorsque l'âme de Cyriane l'avait quittée, une sensation de perte irréparable, un déchirement, un froid maléfique. Elle comprenait maintenant pourquoi les hiboux injectaient une solution anesthésiante dans les corps d'emprunt avant le transfert retour. Bien que très faible, elle avait eu la force de se glisser dans le dos du rhinocéros, de lui poser la lame sur la jugulaire et de rester collée contre lui. Il avait réagi comme elle l'espérait. Pris au dépourvu, peu habitué à être menacé dans sa chair, il s'était pétrifié, n'osant pas se débattre, implorant du regard le merle, pas mécontent de la tournure des événements. Qu'un commissaire divisionnaire se soit laissé surprendre par une gamine armée d'un minable couteau, voilà qui le vengeait de la morgue de ceux qui prétendaient appartenir à l'élite humaine. Il le laissait mariner quelque temps dans sa peur, ne se pressait pas, tournait autour de la fille noire et du flic, en cercle de plus en plus serré, un sourire narquois sur les lèvres. Léonie le surveillait du coin de l'œil tout en maintenant la lame appuyée sur la jugulaire du rhinocéros. Verdier avait poussé un cri d'orfraie quelques secondes plus tôt. Le fil tranchant lui avait incisé la peau, et quelques gouttes de sang sinuaient sur son cou. Léonie avait légèrement relâché sa pression. Elle craignait que le transfert retour de l'âme de Cyriane n'eût définitivement échoué et commençait à fléchir physiquement et psychologiquement. Les précautions observées par les hiboux, les caissons, les casques, les piqûres, avaient certainement leur raison d'être. Son corps dans le caisson ne donnait en tout cas aucun signe de vie. Son visage apaisé, angélique, ressemblait à un masque mortuaire. Peut-être étaient-ils arrivés trop tard. Peut-être son organisme n'avait-il pas supporté le second coma rapproché. Elle sentait contre sa poitrine les contractions des muscles du rhinocéros, les battements puissants de son cœur, ses frémissements d'impatience. Or elle, dans un coin de la pièce, n'était plus qu'un spectre figé, une absence. Le merle ne cessait de tourner en accélérant l'allure, comme s'il tentait d'hypnotiser Léonie. Elle lui hurla de s'arrêter et appuya plus fort la lame sur la jugulaire de Verdier.
« Faites ce qu'elle vous dit, bordel !» glapit le commissaire.
Le merle s'immobilisa sans se départir de son sourire en coin. Le bras, le corps de Léonie commençait à se crisper. Elle lança un nouveau coup d'œil dans le caisson de Cyriane. Toujours rien. Oh Dieu, où donc était passée son âme? Avait-elle définitivement quitté cette terre? Une peine immense l'envahit. Elle s'était attachée à son bébé de 21 grammes, comme une mère à l'enfant porté pendant 9 mois. Ils avaient vécu quelques jours dans une complicité totale, incomparable. Elle avait aimé, oui, elle avait aimé l'accueillir en elle, capter ses pensées. Elle avait oublié les désagréments de sa présence. Elle s'était habituée à leur échange permanent, au manque d'intimité, au partage de ses secrets. Jamais il ne s'était montré blessant. Sa douceur infinie l'avait apaisé, presque réconcilié avec les hommes. Le rhinocéros poussa un grognement. Elle releva la lame sans la décoller de son cou. Un liquide chaud lui poissa les doigts. La répulsion la fit se reculer. Le merle exploita son bref flottement pour placer son attaque, fondit sur elle, saisit son bras, le tira brutalement en arrière, écarta la lame du cou du rhinocéros, la força à relâcher le couteau, accentua sa pression jusqu'à ce qu'elle tombe à genoux. Le tout n'avait pas duré plus de 3 secondes. Léonie gémit, le coude disloqué. Elle vit le merle, de sa main libre, s'emparer de son couteau. Le rhinocéros se rua sur elle et lui décocha un violent coup de poing à la face. Elle crut que son nez et ses dents volaient en éclats, flotta quelques secondes dans un état second, comme éblouie par une lumière et une chaleur intense. Puis, la douleur. La plante carnivore grimpa à l'assaut de son visage, de son crâne, de son cou, de son ventre. Elle faillit perdre connaissance. Le merle la grippa par le col de son blouson pour l'empêcher de tomber.
« Petite salope !» glapit le rhinocéros. « Tu vas me le payer !»
Il frappa une deuxième fois, au plexus cette fois. Souffle coupé, violente envie de vomir. Le merle la relâcha, elle roula sur le sol et se recroquevilla sur elle-même pour essayer de respirer, de récupérer. Du sang s'écoulait de son nez brisé et de ses lèvres déchirées. Ses yeux tous braqués sur Léonie, Verdier plaqua un mouchoir en papier sur la plaie de son cou avant de lui décocher un violent coup de pied dans les jambes. Le merle s'interposa.
« Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire d'elle, mais si vous continuez comme ça, vous allez l'achever.
Vous êtes censé assurer la sécurité dans cette putain de baraque !» vitupira le rhinocéros. « Vous auriez dû la fouiller avant de la laisser entrer dans cette salle !»«
Elle vous accompagnait !» rétorqua froidement Anton Svaros. « Je pensais que vous répondiez d'elle. »
Le commissaire ouvrit la bouche pour finir de cracher son venin, mais se ravisa.
Assez perdu de temps. Je demanderai à Calixte de lui accorder un traitement de faveur. Il faut maintenant l'allonger dans un caisson. Aidez-moi.
Les deux hommes soulevèrent Léonie et l'installèrent sans ménagement dans le caisson voisin de celui de Cyriane. Elle ne réagit pas. Étourdie. Reprise par ce réflexe de se réfugier loin en elle-même quand la souffrance devenait trop forte. Ils lui posèrent le casque sur la tête. Le rhinocéros remonta la manche de son blouson pour lui injecter l'anesthésique. Tout cela était absurde, parfaitement inutile. Elle ne renfermait plus son passager, mais elle n'avait pas la force, pas le courage de se révolter, pas même celle de s'en désoler. Sa vie s'arrêtait à l'âge de 20 ans dans cette pièce aseptisée. Son seul regret, finalement, était de ne pas avoir mieux connu Cyriane. Avec lui, peut-être, elle aurait pu briser la malédiction et retrouver le goût de l'humanité. Lui aurait pu l'aider à oublier le baiser refusé à Denis, les blessures infligées par les clients de la hyène, le vide creusé par la lâcheté de son père et l'arrachement à la terre natale, l'aiguille luisante dans la main du rhinocéros, le visage ascétique du merle au second plan. Des larmes roulèrent sur ses joues, se mêlant à son sang. Elle avait lutté de toutes ses forces, comme la chèvre de M. Seguin. Le temps était venu de l'abandon, du repos. Elle ne se résignait pas. Elle acceptait de quitter sa vie, comme un vêtement trop longtemps porté, de passer sur la rive mystérieuse où tant d'êtres humains l'avaient précédée. C'était le soulagement qui dominait, la sensation de lâcher prise, de voler, libre et légère, dans le gouffre qui s'agrandissait sous elle. Il s'acharnait sur son corps, mais son âme s'échappait déjà, comme celle de Cyriane quelques instants plus tôt. Elle flottait maintenant au-dessus de sa chair meurtrie. Elle se voyait d'en haut. Sans l'intercession de ses yeux, elle contemplait son corps comme elle ne l'avait jamais contemplé, bien mieux que dans un miroir. Elle observait le casque lumineux posé sur son crâne, sa peau noire aux reflets bleutés, son nez meurtri par le coup de poing du rhinocéros, le sang coagulé sur ses lèvres et son menton, son bras dénudé, que Verdier garrottait brutalement pour en dégager les veines. Elle ne se jugeait ni belle, ni laide, elle se découvrait, elle s'explorait, elle, la fille d'Afrique, qui valait si peu aux yeux de son père qu'il l'avait vendue à sa tante pour une poignée d'euros. La prostituée livrée, dès l'âge de 8 ans, aux hommes blancs fous de chair fraîche. Elle, la clandestine tombée amoureuse d'un boule dans un squat du 20e arrondissement. Elle, le vaisseau d'un voyageur clandestin, nommé Cyriane. Elle apercevait dans le caisson voisin le corps toujours inerte de son ancien passager. Elle fut traversée par l'envie de s'y introduire, de prendre possession de lui, de remplacer son âme disparue, de découvrir le monde par ses yeux d'homme. Elle s'en rapprocha, le trouva plus beau encore que dans son souvenir, se plaça juste au-dessus de lui, à la verticale, et sans qu'elle eût besoin d'en émettre le désir, commença à descendre lentement vers lui. Elle devinait derrière elle les formes denses du rhinocéros et du merle penchées sur l'autre caisson. Elle s'approcha encore du corps de Cyriane, capturée par sa gravité. Un mouvement brusque la surprit, l'effraya, la projeta en arrière, la renvoya au-dessus de son propre corps. Le rhinocéros approchait l'aiguille de la saignée de son bras. Quelque chose bougeait dans le caisson de Cyriane. Ses paupières s'ouvraient, ses mains s'agitaient, son torse se soulevait, il revenait à la vie. Elle roula dans une joie infinie avant d'être emportée par un vortex, précipitée dans un trou noir. Une douleur intense l'informa qu'elle avait regagné son corps. Elle entrevit, entre ses paupières mi-closes, les visages du rhinocéros et du merle penchés sur elle. Verdier ne l'avait pas encore piqué. Il maintenait la seringue une dizaine de centimètres au-dessus de son bras. Elle inhalait des flèches enflammées à chaque inspiration. Le sang séché tirait sur ses lèvres déchirées. Ses gencives l'élançaient. « Qu'est-ce que vous attendez ? » demanda le merle. Verdier désigna l'écran plat qui s'était allumé sur une étagère. « Que l'ordinateur me donne le feu vert. Il calcule le meilleur moment pour procéder au transfert. »« Transfert de quoi ?» La question d'Anton Svaros rappela au rhinocéros qu'il en avait déjà trop dit. « Si on vous le demande, ça va bientôt être le moment. » Il souleva légèrement le bras de Léonie, qui se contracta dans l'attente de la piqûre. Elle allait plonger dans une léthargie dont elle n'était pas certaine de revenir. Elle se débattit tout à coup comme une furie, arrachant à moitié son casque. Cyriane était revenue. Il fallait lui laisser un peu de temps pour reprendre le contrôle de son corps. Elle échappa à la poigne de Verdier, qui poussa un juron, s'agrippa au bord du caisson, commença à se soulever, mais le merle eut le réflexe de la saisir par les épaules et de la contraindre à se rallonger. Petite, hors de lui, Le rhinocéros leva le bras pour la frapper. Il n'alla pas au bout de son geste. Une main lui avait saisi le poignet et avait brusquement dirigé la seringue vers son propre flanc. Il n'eut pas le temps de détourner l'aiguille, qui crissa sur une côte et s'enfonça dans sa chair jusqu'à la garde. Le merle lâcha Léonie pour voler au secours du rhinocéros, pas assez rapidement pour empêcher l'injection du produit anesthésiant. Verdier rua, poussa un rugissement, retira précipitamment la seringue, trop tard. Ses jambes fléchissaient, ses épaules s'alourdissaient, ses pensées s'envolaient. Il s'affaissa lourdement sur le sol, laissant le merle seul face au jeune homme blond qui, quelques secondes plus tôt, reposait inerte dans le caisson. Anton Zvaros tira son pistolet. « Bouge plus !» Verdier prononça une succession de mots incohérents avant de sombrer dans l'inconscience. Léonie se débarrassa du casque, se redressa et, par-dessus l'épaule du merle, contempla Cyriane, ses yeux bleus pâles piquetés d'or rivés sur le pistolet du merle, le halo de sa chevelure dorée, son front légèrement bombé, ses traits angéliques. Elle le regarda comme un ami très cher, un frère. Il avait mis le rhinocéros hors d'état de nuire. Elle devait maintenant l'aider à se débarrasser du merle, dont l'attention était entièrement accaparée par le diable blond surgi hors de sa boîte. Elle chercha des yeux une arme, ne trouva que le casque, pas très pratique, mais son poids, environ 5 kilos, en faisait une redoutable massue. Elle descendit du caisson aussi discrètement que possible, ne pas donner au merle l'occasion de se retourner. La douleur la dévorait, la fleur carnivore. « Va falloir m'expliquer ce qui se passe ici !» grommela le merle. Elle lut dans le regard de Cyriane qu'il comprenait ses intentions. « Vous ne connaissez donc pas le VEC ?» La voix de Cyriane enveloppa Léonie de sa douceur, accordée à la musique de sa pensée. Elle s'arma du casque, descendit de l'estrade et s'avança dans le dos d'Anton Zvaros. « Le quoi ?»« Le VEC, le voyage extracorporel. » Je vous explique brièvement le principe. L'âme et le cerveau sont deux entités bien distinctes, contrairement à ce qu'affirment les neurosciences. L'âme se sert en réalité du cerveau comme d'une interface. Les yeux déjà fous du merle volèrent dans tous les sens. « M'embrouille pas avec !» Il se retourna avec vivacité, évita le casque d'un retrait du buste, reçut le coup au défaut de l'épaule, fléchit sur ses jambes, tentant aussitôt de se rééquilibrer, de se redresser. Léonie avait mis toute son énergie dans son geste. Elle voulut relever le casque pour frapper une deuxième fois. Il pesait des tonnes au bout de son bras. La douleur dans son nez, dans sa bouche, dans ses jambes, l'empêchait de reprendre ses forces. Cyriane bondit sur le poignet du merle et le tordit pour le contraindre à lâcher son arme. Les deux hommes se livrèrent pendant quelques secondes une épreuve de force. Zvaros pressa la détente. La détonation, discrète, s'accompagna d'une forte odeur de poudre. La balle rebondit en miaulant sur le carrelage et percuta le bas d'une estrade. Léonie brandissait maintenant le casque métallique au-dessus de sa tête, guettant l'occasion de l'écraser sur le crâne du merle. Un nouveau coup de feu éclata. Elle recula d'un bond, attendit quelques secondes pour se rapprocher des deux hommes, se glissa derrière Zvaros, profita de sa brève immobilité pour lui abattre le casque sur l'arrière du crâne. Emportée par son élan, exténuée, elle perdit l'équilibre et s'affala de tout son long. Elle perçut vaguement les halètements et les bruits sourds de lutte entre les deux hommes. Elle n'avait plus la volonté de se retourner, plus le courage d'ouvrir les yeux. Il y eut une succession de chocs rapprochés, un râle étouffé, puis le silence redescendit sur les lieux. Quelqu'un se pencha sur Léonie. Elle reconnut son odeur sans jamais l'avoir respirée, accordée elle aussi à la douceur de sa pensée. « Léonie !» Le souffle de Cyriane sur son visage, ses yeux bleus sur elle. Elle n'avait jamais baigné de la sorte dans le regard d'un homme, pas même dans celui de Denis. Jamais sourire ne l'avait à ce point bouleversée. « Bonjour, mon vaisseau. » Toute la tendresse du monde dans la voix de Cyriane. Il glissa le pistolet du merle dans une poche de son pantalon, prit délicatement Léonie par la taille, la souleva et examina ses plaies. « Il t'en fait du mal. Désolé, j'ai eu du mal à revenir. » Léonie ne put contenir plus longtemps ses larmes.
« J'ai eu si peur, si peur. »
Il lui posa l'index sur la bouche. « Ne dis rien. Tes lèvres sont dans un sale état. » « Je me suis perdu entre ton corps et le mien. J'étais un peu trop bien en toi, je suppose. » Il releva la tête, observa les corps des deux hommes et la silhouette figée d'Aurel. « Il faut maintenant sortir de cette pièce et foutre le camp d'ici. Ces deux-là vont bien finir par se réveiller. Est-ce que tu peux marcher ?» Il l'aida à se relever. Ils restèrent un moment blottis l'un contre l'autre, la tête de Léonie posée sur la poitrine de Cyriane. Sa chaleur la consolait, apaisait ses blessures. Les plaies ouvertes par les poings du rhinocéros, mais aussi les offenses des temps plus anciens, en Afrique et en France. « Les gorilles qui gardent cette pièce ne savent pas ce qu'on est venu faire ici, » reprit Cyriane. « Ils ne devraient donc pas s'étonner en nous voyant sortir. Ça me laissera le temps de tirer avant qu'ils réagissent. Le truc, c'est que je ne suis pas vraiment un as du pistolet. Et puis, je ne sais pas combien ils sont à nous attendre de l'autre côté de cette porte. Bah, je suppose qu'à 2 ou 3 mètres, il est plus difficile de rater sa cible que de la toucher.
Un lion,
murmura Léonie sans décoller sa joue de la poitrine de Cyriane.
Quoi ? Tu m'as demandé l'autre jour à quel animal tu me faisais penser. Je sais maintenant.
Elle parlait sans desserrer les lèvres.
Moi ? Un lion ?
Au battement de son cœur, à sa façon de la serrer à lui couper le souffle, elle sut qu'elle avait touché juste.